À mes côtés, toujours le journaliste Pierre Aski pour cette deuxième partie de la grande table spéciale Wang Bing ce midi. Comment le cinéma documentaire chinois accompagne-t-il les transformations de la société chinoise? Quels reflets nous en donne-t-il et de quel réel parlons-nous? Le réalisateur Wang Bing est notre invité ce midi, rejoint par Flora Lisha. Bonjour.
Bonjour.
Spécialiste du cinéma indépendant chinois, ancienne directrice du festival Shadows. Vous êtes actuellement en thèse de doctorat à l'INALCO et justement, vous travaillez sur le documentaire indépendant chinois comme miroir d'une société urbaine en mutation. On a évoqué avec vous dans cette première partie de la grande table, Wang Bing, le documentaire qui est en salle depuis hier, Tang, sur ces exilés birmans sur la terre chinoise à la frontière. On va revenir avec vous sur votre parcours de cinéma, sur ce réel que vous avez exploré et montré à travers vos films. Et peut-être justement à ce propos, une première question. Vous venez d'une école de la photographie, vous êtes ensuite passé par une école de cinéma. Comment avez-vous fait le choix de vous concentrer presque uniquement sur le documentaire, c'est-à-dire sur cette idée de filmer le réel plutôt que la fiction, à part une rare incursion qu'a pu être le film Brutality Factor que vous aviez réalisé en 2007? Pourquoi ce choix du documentaire plus que de la fiction?
Si on veut faire de la fiction en Chine, il faut davantage de moyens. Par ailleurs, il faut des acteurs, des professionnels. Nous avons besoin du soutien de l'industrie du cinéma. Pour faire des films indépendants, c'est très difficile. Après un certain temps, je me suis dit que j'allais plutôt me consacrer aux documentaires, car il y a moins de contraintes financières pour filmer des documentaires.
On va écouter trois extraits de trois de vos films, À l'ouest des rails, À la folie et Fang Ming, chronique d'une femme chinoise. Et on reparle de votre travail juste après. Flora Lisha, quelle est la particularité du cinéma de Wang Bing?
Je dirais que le cinéma de Wang Bing a la particularité de s'intéresser à ces individus qui sont invisibles dans les médias officiels. Il s'intéresse à ces personnes en montrant leur vie quotidienne, en particulier la manière dont les réformes économiques après la révolution culturelle ont impacté leur mode de vie, les traditions. Voilà, donc Wang Bing pose sa caméra sur ces personnes qui sont parfois des personnes marginalisées, mais pas toujours. Par exemple, on voit dans son film Les Trois Sœurs du Yunnan, trois petites filles qui vivent dans un village en haut d'une montagne dans la province du Yunnan, mais aussi dans, par exemple, son film À la folie, les internes d'un hôpital psychiatrique dans la province du Yunnan.
Alors la folie, la différence, effectivement, la maladie mentale dans À la folie, les naufragés de l'ère industrielle dans À l'ouest des rails, les victimes aussi des camps de rééducation dans Fang Ming, Pierre Aski. Quelle Chine nous montre Wang Bing? Et vous parlez devant témoin, attention, tout ça.
En fait, quand il a fait éruption sur la planète documentaire chinoise, mais aussi mondiale, c'était avec ce monument qui était à l'ouest des rails, 9 heures de film. À l'origine, ça en faisait beaucoup plus et il a eu beaucoup de mal à le réduire à 9 heures. Et sa démarche était à la fois celle d'un historien de l'immédiat, d'un sociologue, mais aussi d'un cinéaste. Il avait planté sa caméra, vous l'avez dit tout à l'heure, dans une zone industrielle qui fermait. Il y a eu des réformes économiques majeures à la fin des années 90 et des dizaines de milliers d'ouvriers se sont retrouvés au chômage dans le nord-est de la Chine. Et à un moment, il y a un de ces ouvriers qui dit à la caméra « Ma vie n'existe plus que dans ton film ». Et c'est ça qui est important dans ces films, c'est que dans 30 ans, quand on voudra savoir comment la Chine a traversé cette période de croissance effrénée, de transformation de l'économie, de la vie, de tout, c'est pas dans les archives de la télévision officielle qu'on pourra le trouver, c'est dans les films de Wang Bing et de quelques autres documentaristes et cinéastes qui ont essayé d'être au plus près du réel et surtout, dans le cas de Wang Bing, au plus près de l'humain.
Wang Bing, quand vous tournez ce film à l'ouest des rails, considéré effectivement aujourd'hui comme un chef-d'œuvre, hein, comme un monument du cinéma, est-ce que vous aviez le sentiment d'être en train d'écrire l'histoire avec votre caméra ?
À l'époque, je venais d'être diplômé. Et je voulais tourner mon propre film. Néanmoins, je ne trouvais aucun travail. Et je me suis dit que j'allais retourner dans cette région industrielle pour tourner un film sur elle. Donc, effectivement, auparavant, je me rendais souvent dans ces usines-là, donc je connaissais très bien le terrain. Et lorsqu'il y a eu tous ces bouleversements dans ces usines, je me suis dit qu'il fallait que j'aille filmer. Je n'ai pas beaucoup réfléchi. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse mon mieux pour faire ce film. Et en fait, je suis partie travailler sur place, tout seul, tous les jours.
Flora Licha, ce film à l'ouest des rails restera un témoignage de cette ère, comme vient de l'expliquer Pierre Aski. Est-ce qu'il a eu une portée, une diffusion en Chine ? Est-ce qu'il a été vu ?
Ce film à l'ouest des rails a pu être vu en Chine par le biais de DVD piratés ou éventuellement sur Internet, mais il n'a pas pu être diffusé, que ce soit sur les chaînes de télévision ou dans les salles de cinéma officielles, parce que une telle diffusion requiert de demander le visa de la censure accordée par le gouvernement chinois, et bien sûr, les films de Wang Bing ne pouvaient pas obtenir un tel visa.
Et pourquoi ce film aurait été censuré ? En quoi était-il finalement si subversif ? Dans sa réalité ou dans la réalité dont il témoignait ?
Il témoignait du fait que la classe ouvrière chinoise qui était censée être l'avant-garde du prolétariat de l'époque maoïste était jetée à la poubelle, littéralement, au profit d'une modernisation de l'économie qui se faisait avec une nouvelle armée prolétarienne qui était celle des migrants venus de la campagne. On a changé la classe ouvrière en Chine et le film montre la mort de l'ancienne classe ouvrière. Et ça, c'est une hérésie politique.
Wang Bing, des films qui n'obtiennent pas de visa, des films qui ne seront pas diffusés, sauf à travers des canaux pirates, des DVD qu'on peut se passer sous le manteau. Ça pose la question de savoir pour qui vous tournez vos films.
Je pense que mon propre temps est le plus important pour moi. Je sais que mes films ne peuvent pas être diffusés en Chine. Je pense, en tant qu'individu, je ne peux pas rentrer en conflit avec cette société. Je dois me protéger. Je ne dois pas gaspiller mon temps. Et c'est pourquoi je vais faire ce que j'ai envie de faire.
Pierre Aski.
Wang Bing, vos films ne sont généralement pas directement politique au sens où, où vous prenez la chose politique de front, sauf dans une exception qui est ce diptyque Fang Ming et le fossé. Fang Ming, c'est un entretien de 3 heures avec une femme qui est survivante des purges de la campagne anti-droitière des débuts de l'ère maoïste. Son mari a été envoyé dans un camp, il n'en est jamais revenu. Et le fossé, c'est la reconstitution de la vie et de la mort, surtout, de ce camp de prisonniers politiques. Et ce double film, l'un documentaire, l'autre fictionnel, c'est votre seul moment où, dans votre œuvre, vous prenez à bras-le-corps la chose politique, la chose historique, et un des tabous de la Chine d'aujourd'hui, c'est-à-dire cette mémoire tourmentée. Est-ce que c'est à quoi a correspondu ce choix d'avoir fait cette incursion dans le domaine plus politique ?
Quand nous étions petits, dans un tel environnement, tout était politisé. Nous étions dans un environnement politisé. Que l'on parle de notre quotidien, des personnes autour de nous, tout était lié à la politique.
Donc,
lorsque j'ai fait connaissance avec cette femme, Feng Ming, ça a été une rencontre très importante pour moi. Et j'ai ainsi voulu filmer sa vie. Et sa vie est le produit de cette politique de l'époque.
Wang Bing, comment filme-t-on cette réalité? On le disait, vous êtes passé par les beaux-arts, par la photographie. Est-ce que réaliser un beau film, c'est aussi un souci premier pour vous? Ou est-ce que vous vous posez pas du tout cette question de l'esthétique de vos films, peut-être par refus de poétiser le réel ou d'esthétiser des situations difficiles? Question qu'on peut se poser notamment pour votre dernier film documentaire, Tang, sur les exilés qui vient de sortir en salle.
Il y a un élément très important dans les films. C'est de retranscrire la vérité, la réalité de tous les protagonistes. C'est ce qu'il y a de plus beau dans un film. En effet, l'environnement dans lequel évoluent les protagonistes est toujours différent. Les situations sont toujours différentes. Et je pense que le plus important, c'est de faire un film honnête et franc.
Flore Alisha.
Oui, pour rebondir sur cette question de vérité dont parle Wang Bing, je pense qu'il faut vraiment savoir qu'en Chine, l'acte de montrer le réel de façon vraie est extrêmement important, parce que durant la période maoïste, le réel qui était montré était un réel extrêmement instrumentalisé et manipulé par le Parti communiste chinois. La population ne pouvait avoir accès qu'à des slogans révolutionnaires ou à des films documentaires de propagande. Et c'est la raison pour laquelle des documentaristes tels que Wang Bing, après la révolution culturelle, ont souhaité rétablir la vérité sur l'histoire de cette période, mais aussi sur l'histoire du présent, toutes les transformations liées aux réformes. C'est pourquoi, effectivement, cette question de la vérité est extrêmement importante dans le contexte chinois.
Oui, c'est ça, parce que Wang Bing ne parle pas de réalité, il parle plutôt d'une vérité à raconter, vérité à laquelle il souhaite, lui, comme réalisateur cinéaste, être fidèle. Au-delà de Wang Bing, quand on va vers le cinéma documentaire chinois, indépendant, sur lequel vous vous êtes penchée, Flora Licha, quelle offre, quelle lecture plurielle des réalités chinoises peut-on retrouver? Vous dites qu'il fallait quand même aussi à un moment s'éloigner de ce discours unique, assez normatif, qui était porté par les autorités, par le régime. Alors, quelle lecture plurielle de la réalité ont-ils tenté de donner, ces cinéastes chinois indépendants?
Alors, effectivement, comme son nom l'indique, ce sont des lectures culture plurielle, puisque l'apparition des caméras numériques à la fin des années 90 a permis à des cinéastes amateurs de commencer à filmer cette Chine de façon individuelle. Donc, on dénombre extrêmement d'approches multiples, mais on peut dégager quelques grandes tendances. D'une part, effectivement, l'intérêt pour ces gens du commun, dont on a déjà parlé avec le cinéma de Wang Bing. Également, une certaine partie de ces films vont s'intéresser davantage à des enquêtes sur les problèmes sociaux. Ce sont des documentaires d'investigation réalisés par des personnes qui ne sont pas à l'origine des cinéastes, mais qui vont avoir l'envie, de par leur expérience ou des problèmes avec lesquels ils ont été en contact, d'aller creuser certains éléments. Donc on peut citer le travail de quelques cinéastes, par exemple comme celui de Roudier, qui lui revient sur l'histoire de la Révolution culturelle, en retrouvant des personnes qui ont été témoins, des survivants ou des proches de ces survivants. On peut également citer le travail de la cinéaste Ai Xiaoming, qui était elle enseignante à l'université de Canton et qui a porté sa caméra sur différents problèmes sociaux, par exemple des villages entiers qui avaient été atteints par le virus du sida suite à des contaminations dans des hôpitaux et qui est allé enquêter sur ces familles, sur les enfants de ces parents qui parfois étaient décédés et qui est allé enquêter, je veux dire, avec des avocats pour essayer de monter des procès. Même si les procès n'aboutissent pas, cela permet quand même de donner la parole à ces minorités. Ces documentaires également s'intéressent parfois aux minorités ethniques, celles qu'on voit également peu dans les médias officiels, en tout cas pas de la même manière. Là, il n'est pas question de montrer la manière dont le gouvernement chinois a, entre guillemets, amélioré la vie de ces minorités en leur construisant des lotissements pour les sédentariser, mais plutôt de montrer la perte de leur tradition. Je pense notamment à un documentaire sur une minorité ethnique de Mongolie intérieure où l'on voit vraiment l'alcoolisme, la violence liée au fait que ces minorités ne sont plus autorisées à chasser et aller vivre dans les montagnes comme ils le faisaient auparavant. Bref, un regard à la fois sur l'histoire récente et à la fois sur le présent de toutes ces personnes qu'on ne voit pas d'ordinaire.
Et dans ce documentaire, dans cette manière de filmer le réel, est-ce que vous diriez, Flora Lichat, qu'il y a une spécificité chinoise, peu de narration, peu de lyrisme, peu de romantisme à sa manière, mais surtout un réalisme très fort, par choix peut-être, celui d'une école, d'une tradition, ou parce que les conditions de tournage sont évidemment compliquées, on l'imagine bien, finalement des choix cinématographiques, filmiques imposés par les moyens du bord.
Oui, alors effectivement, le fait que des individus s'improvisent cinéastes, évidemment, a une conséquence sur l'esthétique, une esthétique assez brute, réalisée avec des caméras numériques, pas toujours de bonne qualité. Mais également un véritable parti pris de la part de ces cinéastes de se dégager du réalisme socialiste qui était, on va dire, le code esthétique le plus prégnant, majoritaire durant la période maoïste, pour au contraire retourner vers une certaine forme de vérité. Et donc pour cela, le moyen qui a paru probablement le plus adéquat à la plupart de ces cinéastes a été le cinéma direct, dont ces cinéastes ont eu connaissance par le biais de cinéastes étrangers qui sont alors venus en Chine. Je pense par exemple à Frédéric Wiseman, également des cinéastes japonais, notamment Ogawa Shinsuke, qui sont à ce moment-là venus en Chine ou que les cinéastes chinois ont eu l'occasion de rencontrer et qui ont beaucoup influencé leur travail. Ils se sont dit, le cinéma direct, c'est le meilleur moyen de représenter cette réalité de manière vraie, puisqu'il y a peu de coupes, le montage est linéaire, pas de commentaires narratifs, donc véritablement montrer cette réalité, entre guillemets, telle qu'elle est.
Pieraski.
Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de documentaire, il n'y a pas d'école de documentaire légale en Chine aujourd'hui. On en voit très très peu, et parce qu'il y a un problème de rapport à la vérité ou à la réalité qui empêche le documentaire tel que le conçoivent des gens comme Wang Bing d'exister réellement. Et certains cinéastes, en fait, ont une approche très documentaire dans leur fiction. Et je pense à Jia Jiangke, par exemple, dont, qui est un cinéaste qui a commencé dans l'underground. Ses trois premiers films étaient underground. Et ensuite, il est rentré dans le système avec une approche très documentaire. On voit la réalité sociale chinoise, mais dans un univers fictionnel, avec une esthétique extrêmement léchée, ce qui n'empêche pas d'avoir parfois des problèmes avec la censure. A Touch of Sin, qui a eu un grand succès en France, n'est pas sorti en Chine il y a 2 ans. Mais malgré ça, il y a eu un moment cette divergence entre des cinéastes qui sont rentrés dans le cadre légal en essayant d'élargir un petit peu le champ du possible, et ceux qui, comme Wang Bing, sont restés dans une véritable radicalité sans concession.
Spécial Wang Bing, vous l'aurez compris, ce midi jusqu'à 13h30 sur France Culture. Comment le cinéma documentaire chinois accompagne-t-il les transformations de la société et surtout comment il en parle? À mes côtés, Pierre Aski et la spécialiste de cinéma indépendant chinois Flora Lisha sont avec nous pour interroger Wang Bing jusqu'à 13h30.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Wang Bing, le décor est posé, campé, grâce à nos deux spécialistes, Pierre Aski et Flora Lisha. Vous les avez entendus parler du cinéma et de cette tradition du documentaire en Chine. Est-ce que vous avez le sentiment d'appartenir, de vous inscrire dans un mouvement actuellement?
J'ai choisi le documentaire tout d'abord parce que je cherchais tout simplement du travail. Par ailleurs, je pense que le documentaire est très important pour la Chine. En effet, aujourd'hui, la Chine connaît de profonds changements. Elle n'a jamais connu de changements aussi profonds auparavant. Finalement, il est assez rare de voir des films qui arrivent à retranscrire la vie des Chinois d'aujourd'hui. Les documentaires que nous voyons à la télévision n'arrivent pas à dépeindre vraiment l'histoire de tous ces gens-là. Alors, bien évidemment, il y a des cinéastes documentaristes qui, comme moi, sont en dehors du système et qui produisent indépendamment, qui réalisent des films de manière indépendante. Ils racontent l'histoire de nombreuses personnes, de nombreux groupes différents.
Mais vous êtes un solitaire, vous avez le sentiment beaucoup. Ou est-ce que vous partagez sur vos intentions, votre démarche avec d'autres cinéastes, d'autres documentaires?
Après toutes ces années, je suis habituée à ce mode opérationnel. Je m'y suis fait. J'accepte les conditions dans lesquelles je travaille. Il y a de nombreux réalisateurs, qu'ils soient plus jeunes ou plus âgés que moi, continuent à travailler sans relâche. Ma vie telle qu'elle est est normale en mon sens. Je fais ce que je veux. Je n'ai pas envie de m'imposer une pression particulière ni de contraintes particulières.
Et sans vous imposer quoi que ce soit, vous avez le sentiment d'avoir été quand même influencé par un certain cinéma, alors chinois ou étranger, européen. Est-ce que vous avez des influences qui vous ont marqué ?
Effectivement, au cours de mes études, j'ai été inspirée par de nombreux réalisateurs. Par exemple, Tarkovsky, ou encore Antonioni, Pasolini. J'apprécie beaucoup leurs œuvres. Néanmoins, je n'avais jamais touché au documentaire. Je regardais que de la fiction, mais j'ai fini par réaliser des documentaires. Je n'ai jamais été confrontée au documentaire auparavant. J'ai donc suivi mon instinct et j'ai ainsi commencé à filmer, à réaliser tous ces documentaires. Aujourd'hui, je trouve ça très bien de faire des documentaires.
Pieraski, Flora Licha.
Il y a une question que je me suis toujours posée à propos des œuvres de Wang Bing qui sont, on l'a dit, plus longues que la moyenne, disons. C'est le rapport au montage. On a l'impression que c'est une souffrance, une torture de couper une scène, de couper un témoignage d'une des personnes que vous filmez.
Au cours de mon travail,
nous avons commencé à utiliser le numérique.
C'est plus comme par le passé où il fallait avoir des bandes.
Et donc c'est assez simple de réaliser ces films, de les finaliser sur notre ordinateur. Donc il n'y a aucune personne qui supervise mon travail, aucun organisme qui le fait. Donc je choisis les scènes, le contenu que je veux mettre dans mon film. Et c'est pour ça que j'oublie souvent la question de la longueur. Parce que je filme pour moi, je travaille pour moi, et donc je n'ai plus cette contrainte de temps.
Pieraski, des films plus proches des réalités vécues et rencontrées par les réalisateurs. Wang Bing nous racontait comment il se saisit de situation, comment il va sur le terrain pour voir, pour filmer, pour raconter au plus près de la vérité. Aujourd'hui, de quelles évolutions de la société témoignent ces films ou de quelles évolutions devront-ils bientôt témoigner ?
Il est clair que dans le cinéma de Wang Bing, on voit comment les individus ont été broyé par la grosse machine de la transformation chinoise, de la croissance chinoise, et que sans lui ou sans ce travail documentaire, ou aussi dans la littérature, on ne verrait que des taux de croissance, que des villes qui poussent, que des réalisations magnifiques que nous montre la télévision chinoise ou que veut montrer le pouvoir. Or, dans cette machine-là, dans cette transformation, l'être humain, l'individu, est souvent sacrifié, une variable d'ajustement qui permet justement à la Chine d'avancer. Et c'est en changeant de focale, en passant à ce niveau de l'humain et non pas à celui de la mégapole ou du taux de croissance, qu'on constate et qu'on comprend ce qu'a vécu la Chine depuis 30 ans et qui est d'une ampleur absolument exceptionnelle. Et ce qui est le très étonnant aussi, c'est la part du hasard finalement dans le travail de Wang Bing, parce que lorsqu'il a tourné les trois sœurs du Yunnan, donc c'est l'histoire de trois petites filles qui vivent toutes seules dans une maison dans un village de montagne de la province du Yunnan, il les a rencontrées par hasard alors qu'il était dans la province pour autre chose. Là, pareil, il était dans le Yunnan pour tourner un film sur autre chose et tout d'un coup, il y a cet afflux de réfugiés et il abandonne tout et il se met à suivre le parcours de ces réfugiés. Et je trouve cette démarche très intéressante parce que c'est pas dans un bureau de Pékin que il décide ce qu'il va montrer de la Chine. C'est aussi la vie qui s'impose à sa caméra autant que lui qui fait le choix d'aller dans ce sens.
Pour terminer, et après, on a le sentiment quand même que petit à petit, vous l'écriviez une fois, Pierre Aski, la censure des documentaires, la censure du cinéma chinois est plus administrative depuis quelques années qu'idéologique. Est-ce que vous avez l'impression que ce champ artistique, mais aussi ce champ historique, puisqu'on vient de dire que le cinéma a raconté cette histoire du temps présent en Chine, notamment à travers son cinéma indépendant, est en train de s'ouvrir, de se libérer un peu plus quelque part?
La tendance récente ne va pas vers l'ouverture. Il y a en fait une alternance de périodes d'assouplissement et de périodes, on pourrait dire, de répression. Ça, c'est une constante dans l'histoire chinoise. Dernièrement, nous avons pu observer au milieu des années 2000, autour des années 2005, une période d'assouplissement qui a été suivie à partir de 2008 d'une période de répression qui a été croissante à partir donc des Jeux Olympiques et puis avec l'arrivée au pouvoir du dernier président au début de l'année 2013. Et donc depuis ce moment-là, toutes les formes d'expression artistique, y compris le cinéma indépendant chinois, sont réprimées. Les cinéastes avaient pour certains créé des festivals indépendants de petite envergure pour montrer leurs films en Chine. Ces festivals aujourd'hui n'existent plus. Donc ce cinéma est revenu existe de façon illicite et souterraine de nouveau.
Pierre Aski.
Oui, tout à fait. En fait, il y a eu ces dernières années un vrai tour de vis à la société civile plus globalement, qui affecte aussi le cinéma indépendant, et sans doute dû à l'insécurité du pouvoir. On est dans une période de ralentissement économique, de changement de modèle économique, de lutte de clans aussi. On le voit avec la lutte anticorruption, et cette incertitude fait que on tolère moins les zones grises qui, notamment au début des années 2000, ont commencé à se multiplier en Chine. Moi, j'ai assisté, quand j'étais correspondant à Pékin, à l'essor de ce cinéma indépendant grâce, comme le disait Flora tout à l'heure, à l'arrivée des petites caméras numériques. Et là, on est aujourd'hui dans une période beaucoup moins florissante parce que l'État est beaucoup moins tolérant de tout ce qui peut être indépendant. Le mot indépendant est très mal vu aujourd'hui.
Peut-être juste pour conclure sur une note un peu positive, dire que l'une des possibilités aujourd'hui pour ces cinéastes est de s'inscrire dans le marché du cinéma international. On voit que de plus en plus de cinéastes indépendants participent à des festivals internationaux, arrivent à trouver des financements par le biais de fondations étrangères ou de chaînes de télévision étrangères. Et donc, cette direction-là, effectivement, représente aujourd'hui, en tout cas, le seul avenir possible.
Et on le voit avec Wang Bing, qui est déjà ses films, vos films, qui sont déjà allés à Cannes plusieurs fois, à Venise également, dans des sélections officielles. Wang Bing, pour terminer, après ce film sur les réfugiés Tang, ces exilés entre la Birmanie et la Chine, actuellement en salle en France, sur quoi travaillez-vous ?
Je viens de finir un film tourné à Shanghai. C'est un film qui est sorti après Tang. Donc, nous avons filmé ces personnes le long du fleuve jaune qui vont travailler dans les villes, et donc nous filmons leur quotidien, leur périple.
Merci beaucoup à vous d'avoir passé cette heure et demie avec nous. Merci à vous deux également. Un grand merci à Tsao Yintu pour la traduction. Merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Claire Maillot, Clémence Marie, Jean-Christophe Brianchon, Henri Leblanc, assisté d'Inès Magriff sur le fil des réseaux sociaux. Aujourd'hui comme hier, Farah Kéram à la réalisation Perret Legras avec Pierrick Monsigny. Merci à tous et à demain.